Les Racines du Ciel, une émission de Lélie Anvar, avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Jean-Michel Coqui. Aujourd'hui, nous recevons Éric Romeluer pour nous parler de l'art de s'asseoir, tout simplement. Bonjour Éric Romeluer.
Bonjour Lélie Anvar.
Vous avez commencé à pratiquer la méditation en 1978, autant dire que ça ne date pas d'hier, mais du point de vue de la méditation zen, c'était quand même seulement hier. Donc en 1978, sous la direction du maître zen Tenzin Deshimaru, dont vous avez reçu les préceptes bouddhistes. Et assez vite, en fait, vous avez reçu l'ordination monastique, ce qui est arrivé en 1981. Donc effectivement, entre 78 et 81, on peut dire que vous avez fait un bond, puisque vous avez été ordonné moine très vite. Mais vous avez eu aussi d'autres maîtres, dont nous parlerons au cours de l'émission. Vous avez continué votre chemin. Et en octobre 2001, à Tokyo, au Japon, qui, dites-vous, est votre deuxième pays, vous avez reçu la transmission du Dharma, par le traducteur et commentateur des œuvres du maître zen Dogen. Et vous nous expliquerez ce que ça veut dire, recevoir la transmission du Dharma, parce qu'évidemment, ce n'est pas du chinois pour nous, mais c'est du japonais. Aujourd'hui, vous êtes un enseignant bouddhiste de la tradition zen, et vous êtes très impliqué dans plusieurs organisations bouddhistes françaises et internationales. Vous avez fondé notamment, en 1999, l'association Un Zen Occidental, qui a désormais son site d'ailleurs, afin de rendre plus accessible encore cette tradition venue d'Orient, mais qui fait désormais partie du paysage spirituel, pas seulement en Occident, mais on pourrait dire vraiment dans le monde entier. À tort ou à raison, sur un malentendu ou sur une compréhension, vous nous en parlerez au cours de l'émission. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur le bouddhisme et la méditation zen en particulier, dont je ne citerai que les plus récents. « Les Bouddhas naissent dans le feu » au Seuil en 2007, ou alors « Le bouddhisme n'existe pas », paraît-il, au Seuil en 2011, le bouddhisme engagé, toujours au Seuil, en 2013. Et vous venez de publier, toujours fidèle aux éditions du Seuil, un ouvrage qui sera en librairie dans quelques jours, le 24 septembre précisément. Cet ouvrage s'intitule « S'asseoir, tout simplement ». Et nous sommes assis, bien sûr, donc je ne vais pas vous inviter à vous asseoir. Je ne vais pas m'inviter à m'asseoir avec vous, mais j'ai envie de vous poser une question qui est, pour commencer, une question sur les commencements et simplement pour savoir d'où vous est venue cette envie de vous asseoir, cet attrait pour le bouddhisme, pour la méditation zen, alors qu'on pourrait penser que, n'étant pas un oriental vous-même, vous n'étiez pas prédestiné à cela. Mais vous allez nous dire si oui et non, c'est juste de dire que vous n'étiez pas prédestiné.
Je ne sais pas si j'étais prédestiné. En tout cas, c'est vrai que je me suis intéressé au bouddhisme très jeune, dès l'âge de 14 ans. Je me rappelle une petite anecdote. C'est le premier livre que j'ai acheté avec mon argent de poche. J'étais accompagné par mon frère, qui est plus âgé que moi et qui trouvait que c'était un achat très étrange. Et j'avais acheté un livre d'Ananda Kumaraswamy qui s'appelle « Hindouisme et bouddhisme ». Et j'avais 14 ans et c'était... une découverte. Alors, est-ce que je découvrais ou est-ce que j'avais envie de découvrir? Ça, c'est vraiment une question aussi qui m'a longtemps agité. Je pense que j'avais envie de découvrir et que c'était pas anodin que j'aille à la rencontre de ce livre et puis derrière du bouddhisme. Alors, à l'époque, j'avais 14 ans. En France, le bouddhisme n'existait pas au sens vraiment de lieu ou de personne qui puisse enseigner le bouddhisme. Et puis en 1977, j'étais encore donc jeune, j'avais 17 ans, et j'ai vu une émission de télévision qui était consacrée à un maître zen qui enseignait à Paris, qui s'appelait maître Tenzin Deshimaru. Et j'ai été immédiatement... interloqué par cette vision, par cette émission. Le lendemain, je suis allé dans son centre et je ne l'ai plus quitté. Voilà.
Vous
c'est comme ça
quitté,
que tout a commencé.
Ni le maître, ni le centre, et surtout ni cette tradition en fait du bouddhisme zen, qui est quand même une tradition particulière au sein de la grande famille du bouddhisme.
Oui, alors c'est une tradition qui vient de la Chine, en tout cas qui est alors celle dont je peux témoigner est une tradition japonaise, et on utilise le terme de zen, mais le zen n'est pas une tradition japonaise à l'origine, c'est une tradition chinoise, le chan. Et le bouddhisme, en passant par l'univers culturel de la Chine, s'est profondément transformé. Je pense que le bouddhisme est aussi une tradition philosophique, intellectuelle, passant par la Chine qui n'est pas dans un refus de l'intellectuel, mais qui a une autre approche du monde. Le bouddhisme s'est transformé. Une de ces transformations, c'est le zen, qui, dans sa vision, est très radical et qui ne s'embarrasse pas de trop de discussions.
Voilà. Oui, est-ce qu'on peut dire aussi que peut-être en prenant cette voie du zen, le bouddhisme s'est aussi détaché de son aspect plus disons de religion populaire, de rites et de rituels, ou pas? C'est une vue de l'esprit.
C'est difficile, hein, je veux dire, de cerner. Toutes ces traditions ont vécu, se sont développées dans les sociétés traditionnelles, donc avec des supports, on pourrait dire institutionnels, qui sont les gouvernants, les empereurs qui soutenaient ou qui persécutaient. Hein, le bouddhisme a été persécuté deux fois en Chine et a failli disparaître. Donc il y avait ce besoin d'être soutenu par les gouvernants. Et puis en même temps, se développant dans une société très ordinaire, avec aussi des aspects très populaires. Alors je pense qu'il y a toujours eu cet aspect populaire, y compris même dans le zen, et aussi on peut le voir aujourd'hui encore au Japon, cet aspect populaire. Et puis il y a une dimension qui est celle, on pourrait dire, des moines ou des maîtres zen, hein, qui essayent de toucher peut-être quelque chose d'autre que des simples envies ou des simples prières.
Oui, parce que c'est vrai que quand on lit la littérature concernant, et Dieu sait qu'elle est abondante, qu'elle soit que les originaux soient en chinois ou en japonais, on a quand même l'impression que le zen est une voie extraordinairement exigeante tout de même. Alors, c'est pas, il s'agit de s'asseoir, mais tout simplement, mais ce n'est pas si simple que ça. Et que, d'une certaine façon, c'est réservé à une forme d'élite spirituelle, si je puis dire, qu'on appelle les moines. On a quand même l'impression que tous les personnages dans ces livres sont des moines, sont des gens qui ont décidé de consacrer leur vie à cela. Est-ce qu'on peut entrer dans le zen sans devenir moine, dans le sens où on l'entend évidemment dans cette tradition, c'est-à-dire d'une certaine façon de quitter la vie ordinaire?
C'est des questions qui sont difficiles, hein, qui ont agité aussi toutes les traditions bouddhistes. Hein. Est-ce que c'est... originellement, il n'y a pas de distinction entre voie monastique et voie laïque, qui sont plutôt des voies complémentaire. Effectivement, oui, exigeant, mais pas exigeant en termes de conduite ou de comportement, exigeant en termes de conversion intérieure. Ça, il y a vraiment une sorte de saut qui est demandé de s'abandonner. C'est vraiment cette direction dans laquelle nous cheminons, qui est celle d'aller dans l'inconnu. Et aller dans l'inconnu fait toujours un peu peur, et on veut toujours du connu. Donc on peut être moine et on pourrait dire se préserver dans le connu, comme on peut être laïque et se préserver dans le connu. Alors effectivement, ça s'est développé à travers des sociétés où des moines, donc c'était des personnes, vivaient en communauté et aussi dans une relation particulière entre eux, à la fois une relation communautaire, c'est-à-dire transversale, mais également plutôt horizontale, et une dimension verticale, c'est-à-dire recevoir l'enseignement d'un maître dans lequel on a confiance. Et alors, c'est pas pour son enseignement, mais à la fois par ce qu'il témoigne dans sa vie, mais également parce qu'il est capable de vous bousculer. Il est capable de vous bousculer.
Et alors, venons au titre de ce dernier ouvrage que vous publiez. Pourquoi la position assise est si centrale et si importante pour commencer ce chemin? Et vous dites bien, je suis entrée dans ce lieu dans lequel Deshimaru enseigne la méditation, et la première chose qu'on nous invitait à faire, c'était de nous asseoir. Donc il y a une posture, et cette posture commence le chemin. Pourquoi cette posture? Quelle vertu a-t-elle? Et après, on verra aussi où elle nous mène, parce que c'est une posture assise, mais qui vous fait marcher.
On peut aborder ça de plusieurs manières. Je dirais que c'est être assis d'une certaine manière, donc dans la tradition bouddhiste, c'est être assis en lotus, en demi-lotus, sur un coussin. C'est la posture qui permet de rester immobile, sans contrainte particulière, pendant un temps relativement long, qui peut être 40 minutes, une heure ou plus. Et derrière cette faculté de pouvoir rester immobile, c'est aussi de pouvoir trouver une stabilité intérieure. Donc ça, dans les traditions bouddhistes, on met beaucoup l'accent donc sur la posture assise comme entrée dans ce chemin, parce que on a une stabilité, et de dire que la stabilité physique va être une stabilité mentale. Hein, il y a vraiment jamais de séparation entre corps et esprit. Une stabilité, une verticalité qui sera physique, mais qui sera aussi une sorte de rectitude intérieure, et aussi une profonde détente. C'est parfois là, on comprend mal la méditation. On pense que des gens restent immobiles pendant un certain temps et que ils doivent se contraindre à rester immobiles. Si on se contraint à rester immobile, on sort de cette méditation. Donc on doit entrer dans un espace de complète détente et de dire s'il y a une détente corporelle, il y a une détente mentale et qu'on vise vraiment à libérer l'esprit de tout ce qui l'encombre. Donc ça peut être les pensées, les sensations, les perceptions. Donc d'être au-delà de nos préoccupations. Et donc ça se fait par une posture physique.
Oui, et c'est vrai que, pour l'avoir aussi expérimenté, il faut vraiment le faire pour le croire. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, on se dit, c'est pas possible, on peut pas rester. Et c'est vrai que, par exemple, vous dites, dans le livre, à un moment, vous dites, on peut pas être assis en tailleur parce que ça fait, c'est trop instable, ou enfin, c'est une position qui ne va pas. Et dès qu'on change simplement la position des jambes, on croit que le demi-lotus, c'est beaucoup plus difficile, mais en réalité, c'est beaucoup plus stable.
Oui, ça vraiment, ils ont toujours insisté sur des postures qui, pour nous, aujourd'hui, semblent très difficiles, voire impossibles à prendre, parce que nous n'avons plus l'habitude de notre corps. C'est-à-dire, nous ne sommes plus qu'un cerveau. Donc, la dimension de croiser les jambes, aujourd'hui, nous ne savons plus croiser les jambes. Mais si l'on peut s'asseoir de cette manière, on va s'apercevoir que c'est celle qui est la plus facile. Facile pour la détente du corps, la détente de l'esprit.
Mais alors pourquoi nous, les Occidentaux, quand nous essayons de nous asseoir, nous sommes immédiatement confrontés à la tension dans le dos? Pourquoi cette position nous amène immédiatement à la tension? Est-ce que c'est un manque de pratique physique ou est-ce que c'est le mental? Parce que vous faites quand même une sorte d'herméneutique de la posture dans ce livre. Vous nous montrez qu'en réalité, cette posture, elle a des significations symboliques très fortes, mais qui ne sont pas juste intellectuelles. C'est des significations symboliques vécues au plus profond et du mental et du corps. Donc, à votre avis, ces difficultés que l'on rencontre, est-ce qu'elles sont le symbole dont on devrait faire l'herméneutique pour nous-mêmes et pour comprendre ce qui ne va pas chez nous?
Alors, les réponses ne peuvent pas être univoques, puisque chaque personne va aborder cela avec sa propre histoire physiologique, physique. Je pense qu'il y a à la fois une dimension collective où aujourd'hui, être avec son corps devient difficile. Et donc ça, moi, je m'aperçois, j'en parle dans le livre, où je dis quand moi j'ai commencé la méditation, tout le monde s'asseyait en lotus ou en demi-lotus. Ça ne posait pas. Personne n'avait de difficultés particulières. Aujourd'hui, c'est l'exception. Donc on voit qu'en 40 ans, il y a une transformation très importante des corps que l'on ne mesure pas suffisamment, à mon avis, qui est liée au mode de vie citadin. On ne joue pas, au sens vraiment de jouer comme un instrument de musique, on ne joue plus de notre corps. Donc ça, il y a cette dimension. Et puis après, il y a la dimension à la fois personnel, à la fois de comment on va aborder. Et je pense que vraiment, il y a une mécompréhension. On pense que être assis immobile suppose de devenir rigide, c'est-à-dire de verrouiller son armature musculaire, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très visible. Et puis après, chacun va avoir aussi son propre vécu. J'avais discuté avec un japonais, avec un maître japonais, qui m'avait fait cette réflexion. Il m'avait dit, mais en Occident, ceux qui pratiquent la méditation sont toujours dans la rigidité. Et nous, on a un problème, c'est qu'on est toujours dans un corps beaucoup trop relaxé. Et on essaye vraiment de trouver une dimension où il y a une sorte de juste tension. Car si on est trop dans la relaxation, et la méditation n'est pas une relaxation, on va perdre la qualité, on pourrait dire, de lucidité ou le caractère lumineux aussi de l'esprit.
Oui, et d'ailleurs vous expliquez justement alors que cette posture, elle est en même temps très paradoxale puisque c'est la posture de la stabilité, mais c'est aussi une posture extrêmement active. C'est-à-dire que c'est pas, il ne se passe rien. En apparence, il ne se passe rien. Mais c'est une posture dynamique. Alors expliquez-nous comment la posture assise peut être dynamique.
Elle est dynamique dans le corps, bien entendu, avec tout ce qui peut se passer. Donc il n'y a pas une immobilité. Il y a à la fois une immobilité dans la mobilité, une mobilité dans l'immobilité. Et on va le sentir aussi dans l'esprit, où effectivement il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans notre mental. Et dans le livre, j'essaye vraiment de cerner, ou plutôt de pointer différents états mentaux qui effectivement aussi se voient dans le corps. C'est-à-dire que au début, lorsque on pratique la méditation, on est dans un phénomène, on accepte cette posture, on s'assoit comme on l'a dit, mais malgré tout, on reste dans un phénomène d'auto-contrainte qui est là, insidieux, qu'on ne mesure pas totalement, mais qui voilà qu'on épouse. Et le corps, comme l'esprit, a du mal avec cela, c'est-à-dire que le corps, finalement, bouge toujours un peu trop. On bouge les pieds, on bouge les mains, mais dans notre esprit, ça bouge beaucoup. On se dit, quand est-ce que ça va terminer, etc. Ça, c'est une première étape qui est naturelle, finalement. Et on peut arriver dans un deuxième moment où le corps va devenir, non pas immobile au sens où plus rien ne bouge, mais en tout cas, une mobilité naturel, dans lequel on ne surajoute pas quelque chose.
Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar.
Alors, vous citez un court texte de Dogen, le maître japonais du XIIIe siècle. Alors, c'est un très court texte que vous citez dans lequel, justement, il dit que le début, ça commence par cette position assise, cette posture assise, c'est plus juste de dire ça. Les éveillés, ainsi venus, possèdent tous un art subtil, suprême et infabriqué, pour transmettre directement le merveilleux dharma et réaliser l'éveil suprême. S'il est transmis sans altération d'un éveillé à un autre, c'est qu'il a pour norme le samadhi, ou recueillement, que l'on expérimente par soi-même. Pour s'ébattre dans ce samadhi, l'assise droite dans la pratique du zen est la véritable porte d'entrée. Alors si je cite Maître Dogen, c'est pas seulement parce qu'il est le grand inspirateur, le grand maître, mais aussi parce qu'il y a dans ce très court texte que vous citez donc dans votre livre, Éric Rohmeluer, s'asseoir tout simplement, il y a dans ce très court texte plusieurs mots dont j'aimerais que vous nous donniez un éclaircissement sur leur signification, sachant que, je le dis en passant, c'est une traduction que vous avez faite vous-même, et j'en conclus que vous avez donc, à la suite de votre entrée dans le bouddhisme zen, dans cette méditation zen, vous avez aussi étudié le japonais. Je ne sais pas si vous avez aussi étudié le chinois, mais enfin aussi certaines langues indiennes. Donc c'est vraiment un travail... Alors vous dites qu'il faut laisser tomber l'intellect pour entrer dans le cœur du sujet, mais néanmoins, c'est pas mal aussi d'apprendre les langues pour aller directement au texte.
Un de mes grands plaisirs. Je peux dire plaisir.
Mais vous bonheur, avez le droit. Vous avez le
bonheur,
droit.
C'est de m'immerger. Alors ça, c'est vraiment le terme, ou même de comment on pourrait dire qu'il soit un peu plus fort encore, de sombrer quasiment dans ce monde que moi je trouve merveilleux, des écritures bouddhistes, et j'ai appris effectivement le chinois et le japonais, et en fait je me suis intéressé très jeune, parce qu'effectivement dans cette tradition, Maître Dogen c'est comme une sorte de grand phare, c'est un homme qui a écrit beaucoup, si on traduisait l'ensemble de son œuvre, qui n'est pas encore traduite intégralement en français, je pense qu'on serait sur 3000 pages, ce qui est quand même beaucoup pour un homme qui a écrit ces 3000 pages sur grosso modo une dizaine d'années, qu'il était, c'est dans les années, c'est au XIIIe siècle, au fin fond des montagnes, donc on a du mal à s'imaginer. Et son écriture est fascinante, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise le langage pour dépasser le langage.
Quel défi pour le traducteur.
Et donc, tous les traducteurs sont confrontés à l'impossibilité de traduire, parce qu'il joue beaucoup sur plusieurs niveaux, sur de langage, etc., au niveau de lecture. Donc, ça m'a toujours passionné de rentrer en contact avec cette écriture qui m'a amené, très jeune, à m'intéresser et à apprendre le japonais de cette époque. C'est pas le japonais d'aujourd'hui. Et encore plus, c'est même pas le japonais de l'époque de Dogen, c'est le dogenien. Et c'est merveilleux. Et on touche à un univers mental. Dogen fait partie de ces gens qui repensent tout. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va parler du bouddhisme.
Vous dites, il débutait l'un de ses textes par une introduction directe au miracle. C'est-à-dire que vous dites carrément que cette porte d'entrée de la posture assise, c'est un miracle, d'une certaine façon.
Oui, alors...
Enfin, c'est le lieu où peut s'opérer un miracle.
C'est le lieu où peut s'opérer un miracle. Et effectivement, pour tenter de comprendre la méditation, ou même pour la vivre de l'intérieur, il faut se débarrasser... de toutes ces attentes, de tous ces présupposés, et de se plonger dans le miracle, et de le vivre comme un miracle. Et il en parle de cette manière. Donc les premières phrases que vous avez citées à l'instant sont les toutes premières lignes de ce texte.
Oui, il s'agit donc de transmettre directement le merveilleux dharma.
Oui.
Alors, qu'est-ce que le merveilleux dharma? J'ai remarqué que très souvent, vous préférez ne pas employer le mot bouddhisme, qui n'existe peut-être pas, comme vous l'avez dit dans un autre livre, mais vous préférez souvent ce mot de dharma.
Oui. Aujourd'hui, pour moi, il est très important d'essayer de ne plus utiliser ce terme de bouddhisme, qui prête vraiment à confusion. Parce que dès qu'on parle bouddhisme, finalement, émerge l'idée d'une autre religion, d'une autre pensée, d'une autre philosophie. Après, avec les débats, est-ce que c'est une religion, une philosophie? Mais que c'est quelque chose de plus qui s'ajoute à ce que nous connaissons. Et si on lit vraiment les textes bouddhistes très anciens, ce que l'on peut lire toujours, c'est que le Bouddha, on parle à son époque qu'il y a 62 vues, 62 conceptions, qui sont, on pourrait dire, des systèmes de pensée qui existaient en Inde. Et toujours revient ce leitmotiv, le Bouddha n'apporte pas une 63e conception du monde. Donc, on est sur quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, nous l'appelons le dharma. Donc c'est un mot qui vient du sanskrit, qui est utilisé par les traditions bouddhistes, mais un mot finalement qui sert à dire l'inexprimable. Bon, le dharma, ça veut dire aussi la conduite. Hein, donc, alors ça ne veut pas dire le chemin, mais c'est la conduite, le fait de se conduire d'une certaine manière. Donc moi, je préfère utiliser dharma comme,
tout simple.
C'est comme pour l'islam. Hein, on a longtemps dit le mahométisme,
ou
un terme peut-être équivalent, je crois qu'il y a eu plusieurs essais. Et puis, à un moment, on a utilisé le terme qu'emploie les musulmans eux-mêmes. L'islam, qui me paraît plus judicieux que le penser à travers Mahomet, même si effectivement l'islam a son prophète.
Mais alors comment expliquez-vous, alors évidemment nous on dit le bouddhisme, comme vous l'avez bien fait remarquer, de même qu'on disait le mahométisme par référence au christianisme, qui est véritablement une religion centrée sur une personne, la personne du Christ, une personne qui est quand même un peu particulière évidemment, mais enfin c'est par assimilation qu'on fait ça. Mais néanmoins, dans le bouddhisme, on a quand même une vraie pratique de l'image du Bouddha. Je pense aux statues, je pense aux représentations, et au fait que donc dans certaines branches du bouddhisme, je ne parle pas de la méditation zen là, mais dans certaines branches du bouddhisme, il s'agit aussi de contempler et de méditer ces différents Bouddhas qui sont d'ailleurs dans des postures différentes, qui ont chacune leur signification. Il y a le Bouddha thérapeute, etc. Donc est-ce qu'on est quand même tellement dans l'erreur, si on parle du bouddhisme, à partir du moment où l'image, la figure, la geste aussi, ce que le Bouddha a fait, est à ce point au centre de la contemplation et de la pratique des bouddhistes dans le monde, bien que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose évidemment de très polyvalent.
Non, il n'y aurait pas d'erreur à parler de bouddhisme si on prenait vraiment le mot au pied de la lettre. C'est-à-dire le Bouddha qui est un qualificatif qui veut dire l'éveillé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une personne, le terme de personne n'est peut-être pas forcément adéquat s'agissant du dharma, mais en tout cas, il y a quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est pas présenté comme quelqu'un d'ordinaire. Il est présenté comme un Bouddha, c'est-à-dire comme un éveillé. Et les traditions bouddhistes sont fondées sur cette dimension. Il y a le domaine ordinaire dans lequel nous vivons toutes et tous, sans exception, qu'on va appeler, nous, le samsara, c'est-à-dire, comment on pourrait traduire ça, par l'égarement, l'illusion. Et puis, il y a une dimension que a vécu et que pointe le Bouddha, qui est une dimension que je retraduirais en termes plus modernes par une dimension non névrotique de l'être humain et que l'on va appeler l'éveil. Toute la difficulté aujourd'hui est que quand on dit bouddhisme aussi, c'est pour ça aussi que j'ai une certaine difficulté à parler du bouddhisme, c'est justement de ramener sur la personne et de dire finalement le bouddhisme est un humanisme. C'est-à-dire, oui, ce n'est qu'un être humain. C'est-à-dire que on va oublier une dimension que moi je qualifierais presque de mystique, qui est présente dans ces traditions, qu'il y a un ailleurs que le monde ordinaire de l'être humain tel qu'il se construit au quotidien. Pour moi, aujourd'hui, le bouddhisme est appréhendé, comme une religion ou une philosophie de plus. Et pour moi, à l'aborder comme ça, c'est se méprendre. Et aussi, on l'aborde comme un humanisme, où finalement, ça serait être un peu mieux, un peu plus compatissant, un peu plus tendre avec le monde contemporain, avec les autres personnes. Mais bien entendu, ces dimensions existent, mais elles ne disent pas, on pourrait dire, l'horizon dans lequel nous nous situons.
Oui, et puis est-ce qu'on pourrait... Parce que ce mot de Bouddha, il est employé soit avec, alors dans nos langues occidentales, avec une majuscule, désignant le Bouddha, celui qui, le premier, a établi cette voie, ce dharma. Mais aussi, il est employé comme nom commun. On dit les Bouddhas. Parce que finalement, vous venez de dire, la signification littérale du mot Bouddha, ça veut dire l'éveillé.
Oui, oui. Alors, effectivement, il n'y a pas un Bouddha. C'est-à-dire justement dans cette dimension de l'humanisme bouddhique, c'est finalement présenter le Dharma comme ayant été, entre guillemets, inventé par un personnage qui a vécu, alors les dates sont controversées, on va dire le 5e siècle, avant Jésus-Christ. Dans les traditions bouddhistes, on n'a pas pensé le Bouddha comme ça. Donc c'est pas un homme qui est apparu, c'est quelque chose qui est apparu, même s'il se manifeste sous la forme d'un être humain, et c'est vécu comme ça. Et donc de dire que finalement, il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. Et alors ça, on le voit dans les traditions Theravada, c'est-à-dire les traditions du sud-est asiatique, mais où finalement, il y a un ordre chronologique, c'est-à-dire que le Bouddha de notre temps, c'est le Bouddha qui est né donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'il a été précédé par un certain nombre de Bouddhas qui ont le même parcours, c'est-à-dire que tout leur cheminement de vie est identique. Donc on distingue des étapes de la vie d'un Bouddha qui sont identiques, et il y en aura un dans le futur qui s'appelle Maitreya. Les traditions qu'on appelle du grand véhicule, c'est-à-dire toutes celles qui se sont développées aujourd'hui dans en Extrême-Orient et puis dans le monde indo-himalayen, parlent des Bouddhas, c'est-à-dire que il y a le Bouddha de ce monde, mais il y a une multitude de mondes dans lesquels enseignent des Bouddhas, et où même les enseignements ne sont pas forcément identiques, car les conditions de ce monde ne sont pas les mêmes. Voilà.
Mais Éric Romelière, est-ce qu'on ne peut pas dire, et vous y faites allusion dans ce livre seulement, que chacun porte en lui ce Bouddha qui doit atteindre sa plénitude et son épanouissement? Et certes, vous répétez qu'il n'y a pas de but dans la méditation zen, on ne recherche pas quelque chose en particulier, une connaissance, ou on n'a pas une visée, mais est-ce qu'il n'y aurait quand même pas, si on voulait quand même parler d'un horizon, est-ce que ce ne serait pas celui-là, c'est-à-dire de réaliser en soi notre propre humanité, qui s'appellerait dans cette tradition le Bouddha?
Oui, oui, tout à fait. Hein. Ça, c'est le message est donné, non pas comme une justement cette représentation du monde, mais immédiatement depuis son origine, comme étant cette possibilité que chacun d'entre nous puisse vivre ou revivre l'expérience du Bouddha. Alors, selon les traditions, il va y avoir différentes approches, et en ce sens, peut-être aussi les traditions d'Extrême-Orient l'ont thématisé à travers cette expression qui s'appelle la nature de Bouddha. C'est-à-dire que en nous, il y a intrinsèquement cette possibilité de réaliser ce que le Bouddha a vécu.
Et vous expliquez que pour atteindre en fait à cette plénitude du Bouddha en soi, il faut d'abord passer par ce qu'on appelle, alors à nouveau, parce qu'on n'a pas de mots meilleurs pour le dire, l'annihilation, l'effacement, en tout cas la levée de l'ego, le fait de ne plus être une trace égotique dans ce monde, enfin je ne sais pas comment l'appeler, vous allez nous dire, enfin quelque chose qui d'ailleurs dans toutes les mystiques, dans toutes les spiritualités à partir d'un certain niveau, sont évidemment prônées, sont recommandées comme étant une nécessité si on veut arriver à quelque chose d'autre. Et encore une fois, on dit ça parce qu'on n'a pas d'autre mot pour dire qu'il faut arriver quelque part, bien qu'il ne faille pas arriver quelque part. Et vous jouez beaucoup sur ce paradoxe qui est, quand je dis jouer, ce n'est pas péjoratif, bien sûr.
Ah oui, oui. Et ça, c'est le paradoxe de cette pratique où effectivement nous disons, il faut 30 ans pour comprendre la méditation. 30 ans pour comprendre la méditation. Donc si on dit ça, c'est pas très vendeur, entre guillemets. Ça, c'est une formule qui existe. Et en même temps, un seul claquement de doigts devrait suffire pour faire disparaître ces 30 ans. Et en fait, on va s'apercevoir que lorsqu'on médite, finalement, que ce qui nous sommes confrontés à nos empêchements de méditer. Il y a peu d'auteurs qui travaillent sur cette question. On présente beaucoup la méditation comme étant la nouvelle panacée du monde moderne. Peu d'auteurs vraiment montre ce qui se passe réellement dans la méditation. Pour moi, un des auteurs les plus éclairants, c'est un maître tibétain qui s'appelle Shogyam Trungpa, qui est décédé il y a quelques années, mais qui a laissé une œuvre littéraire très importante, disponible en français, dans laquelle il pointe toujours ce qui fait obstacle. Et ce qui fait obstacle, finalement, c'est nos propres peurs. Et en fait, on va cheminer dans la méditation en levant ou en éclairant ou en comprenant ce qui fait obstacle en permanence en nous. C'est-à-dire, on pourrait dire, toutes ces restrictions, toutes ces constrictions qui sont présentes. Et pour pratiquer la méditation, finalement, c'est de relâcher et de dépasser tout ce qui fait peur. Tout être humain a des peurs fondamentales. La peur de ne pas être aimé, la peur de mourir, toutes ces peurs qui sont vraiment ancrées en nous au-delà de notre histoire personnelle, qui fait qu'on est un être humain, on s'est construit comme cela. Et de dire, il peut y avoir un lieu où on va être au-delà de ces peurs. Et c'est ça pour nous, méditer. Donc, nous allons vers cette direction.
Oui, alors là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même en disant ça. Bien sûr, il faut aller au-delà de nos peurs, etc. Mais enfin, vous faites quand même une critique très légère, très, très amicale de toutes les formes de méditation qui sont uniquement centrées sur l'idée, justement, que la méditation permet de se sentir mieux, de ne plus avoir peur, de se développer personnellement, de traverser ses névroses, etc. Bon, vous, à la fin de ce livre, Éric Remulière, que vous venez de faire paraître, S'asseoir, tout simplement, où il y a tout un chapitre, mais c'est une postface même, dans laquelle vous parlez de la méditation pleine conscience et vous ne la récusez pas en tant que telle, mais enfin vous montrez qu'elle n'est pas dans sa fonction réelle, spirituelle, mystique que vous lui assignez et qui va quand même bien au-delà du fait de dépasser ses peurs, même si il faut commencer par là. Donc vous me dites, voilà, la méditation permet de traverser la peur, mais j'ai l'impression quand même, pour vous, c'est quand même beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ce premier pas de gérer ses peurs ou ses névroses.
Non, c'est plus que les gérer ou les traverser. C'est vraiment, vous cherchiez un mot. Moi, j'ai été formé par un enseignant zen japonais qui est pour moi un Bouddha vivant et qui s'appelle Ryotan Tokuda. Qui, lui, s'est beaucoup nourri de la lecture des mystiques chrétiens, et notamment de Eckhart. Et Eckhart utilise un mot qui est peu utilisé dans l'allemand de son époque, dont j'ai oublié le terme, mais qu'on traduit par délaissement. Donc c'est vraiment cette notion d'ouvrir totalement et sans restriction aucune, et donc de dépasser tous nos cadres de représentation. Nos cadres de représentation, c'est aussi une façon de masquer nos peurs, parce que nous avons, face au monde qui nous est présenté, c'est un monde inconnu, et nous avons besoin de créer du connu, donc de créer des réseaux de sens, d'interprétation, le haut, le bas, le bien, le mal. Et donc là, c'est vraiment se pointer, d'aller vers un lieu au-delà de ça, ou en deçà de ça.
Oui, donc, et c'est un lieu où l'ego est confronté quand même. C'est-à-dire, c'est pas...
Il n'y a plus d'ego.
Voilà, c'est ça. On se confronte à ça pour l'enlever.
Il n'y a plus d'ego. Et donc, on pourrait dire tout le cheminement méditatif, parce qu'on pourrait l'aborder comme une voie à la fois progressive et une voie non progressive, instantanée. La voie instantanée, c'est s'asseoir tout simplement. Rien ne fait obstacle à cette absence de peur. Et pourtant, il va y avoir une voie progressive, parce que... on va s'asseoir et pas après pas, si on peut dire ça pour une pratique assise, mais jour après jour, on va s'apercevoir que ce n'est pas si aisé. Et beaucoup de gens, même simplement le fait de s'asseoir quelques minutes en silence, n'est pas un exercice facile, loin de là, quoi.
Oui, et puis aussi autre chose, c'est pas toujours facile non plus de se dire qu'on va entrer dans un cheminement qui va nous mener à la perte de nous-mêmes, si je puis dire, qui va nous mener, dites-vous, à la pauvreté, à la nudité, au silence, au dépouillement, à l'abandon. Comment vous direz, Éric Romeluire, à nos auditeurs, c'est pas grave, mais c'est très très bien de passer par là, parce que a priori, on se dit, je vais quand même pas entrer dans un cheminement qui va m'amener à ce dénuement si radical.
Ben, si on le voit du point de vue de l'ego, c'est profondément angoissant. Mais si on le voit d'un autre point de vue, c'est la libération. Donc c'est ce paradoxe dans lequel sont les pratiquants, c'est-à-dire qu'ils ressentent à la fois cette dimension de la libération et ils ressentent aussi cette dimension, on pourrait dire, de l'angoisse. Et c'est, il y a presque un aller-retour permanent, mais à un moment, il faut choisir. Et choisir la voie du délaissement, la voie du dépouillement. Nous parlons aussi de la grande mort. Hein. C'est en ce sens aussi qu'on rejoint beaucoup de mystiques de nos traditions. Il nous faut passer par la nuit obscure.
Oui, et il y a dans tous vos livres, hein, dans celui-là, mais aussi... dans Les Bouddhas naissent dans le feu, qui je crois est un de vos préférés dans les livres que vous avez écrits, Éric Romeluire, il y a cette idée qui court que le bouddhisme n'est pas une méthode de développement personnel, mais bien une voie mystique avec tout ce qui va avec. Et en effet, quand on vous lit, on ne peut s'empêcher de faire des comparaisons avec les grands mystiques soufis ou les grands mystiques chrétiens, ou hindouistes d'ailleurs. On voit poindre effectivement cette idée que quand on est au sommet de la pyramide des spiritualités, à savoir précisément ce point de la mystique, il y a énormément de points communs. Alors, on a parlé de ce dépouillement qui est effectivement un point commun. Un autre point, qui d'ailleurs est dans ce titre, hein, les Bouddhas naissent dans le feu, c'est l'idée que après ou en même temps, parce qu'il n'y a plus de temps dans cette pratique, donc accompagné en même temps que ce dénuement, il y a l'expérience de la lumière. Et dites-nous un mot de cette expérience. Comment elle se donne, comment elle se vit, si tant est qu'on puisse trouver des mots pour le dire.
Pour nous, l'expérience, on pourrait dire, ultime, c'est l'expérience, et on utilise ce terme, de la grande mort. Mais ce n'est pas pour mourir, c'est ce qui meurt, c'est l'ego. Mais en même temps, l'ego, même s'il meurt, est celui, nous sommes toujours des personnes avec des représentations, et simplement, on s'est touché à un point, on va sentir que nos représentations sont un obstacle. Mais en même temps, on va pouvoir les réincarner, les réapprendre, vivre à travers nos représentations dans la liberté. Donc, il y a, on pourrait dire, la méditation, ou en tout cas l'expérience de la méditation, est une sorte de point zéro. Alors, j'ai vraiment cette image de, lorsqu'on passe à une vitesse automatique, les vitesses en voiture, on passe en première, en seconde, et il y a le moment entre. Le moment entre, dans lequel tout est suspendu. Et on peut passer en première, on peut faire marche arrière. Et c'est pour moi ça, la méditation. Aller, non pas dans 1, 2, 3 en termes de vitesse, mais d'aller dans ce point entre, dans cet entre. Et si on touche cet entre, finalement, d'une manière la plus juste, on va pouvoir... mourir à soi, mais en même temps naître au monde.
Eh bien, naître au monde me paraît être une excellente expression pour clore cet entretien avec vous, Éric Romeluire, que je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu nous éclairer sur ces dimensions spirituelles et même mystiques du bouddhisme, qui sont quand même assez originales dans le paysage actuel, puisque on n'a pas coutume d'entendre ces choses au sujet du bouddhisme en général. Donc je vous remercie tout particulièrement. Il est temps maintenant d'accueillir Virginie Larousse, rédactrice en chef du Monde des Religions, notre partenaire, pour son agenda culturel. Alors, Que nous avez-vous apporté à voir, à lire ou à savourer cette semaine, Virginie Larousse?
Bonjour Lily. Alors aujourd'hui, je voulais informer nos auditeurs d'un important colloque qui va avoir lieu donc les 28 et 29 septembre à la Maison de l'UNESCO à Paris. Alors c'est un colloque qui s'appelle « L'islam spirituel et ses défis contemporains ». Et c'est un colloque donc qui est organisé par le cher Khaled Bentounes, que vous connaissez bien, que nos auditeurs je pense connaissent bien, qui est donc le chef spirituel de la confrérie soufie Alaouia, dont on a régulièrement l'occasion de parler dans le monde des religions, puisqu'il s'illustre depuis des années dans des opérations de vivre ensemble et de dialogue interreligieux qui sont très importantes et très courageuses. Donc ce colloque en fait est organisé à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de l'ordre soufi Alaoui, par le cher Alaoui en 1933. Ce cher dénonçait déjà la montée du salafisme et les dangers du fondamentalisme, donc on voit que c'est une problématique qui n'est pas d'aujourd'hui. Et donc, à l'occasion de ce colloque, il y aura une quarantaine de conférenciers du monde entier, aussi bien musulmans que non musulmans, européens et non européens. Je précise pour nos auditeurs que c'est ouvert à tous, donc on peut y aller à tout moment, donc soit le 28, soit le 29, mais il est préférable tout de même de s'inscrire, c'est gratuit, donc il faut s'inscrire plutôt sur le site internet. Donc je vous donne l'adresse, c'est le www.aisa, ça s'écrit aisa-ong.org, et donc c'est une entrée libre pour cet événement.
Merci beaucoup Virginie Larousse. La semaine prochaine, je recevrai Stéphane Barsac et Pierre Brunel pour évoquer la quête de la lumière dans l'œuvre de Rimbaud. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour Chemin de sagesse.
Je vous parlais la semaine dernière de ceux comme Socrate ou comme Jésus qui refusent de faire du bonheur la valeur suprême et la quête principale de l'existence humaine, même s'ils ne nient pas effectivement l'aspiration fondamentale de l'être humain au bonheur, mais ils pensent que le bonheur ultime, le bonheur plénier, existe essentiellement dans l'au-delà, et que sur Terre, si on peut être heureux, tant mieux, mais ce n'est pas le but de l'existence humaine. On va retrouver cette position avec un philosophe moderne, qui est un des fondateurs de la philosophie moderne, Emmanuel Kant, philosophe des Lumières. Pour lui, le bonheur est finalement quelque chose de beaucoup trop subjectif, beaucoup trop difficile à discerner, et il considère que ce n'est pas un idéal de la raison, mais de l'imagination. Et donc le bonheur n'est pas quelque chose de central en philosophie, ce n'est pas un objet véritablement philosophique, c'est un état plutôt affectif auquel on peut parvenir, plus ou moins, et ne nie pas la possibilité du bonheur, mais comme pour Socrate ou comme pour Jésus, ce n'est pas pour lui, effectivement, l'axe principal qui doit guider notre éthique, qui doit guider notre action. Pour lui, il s'agit beaucoup plus de répondre à l'impératif catégorique, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne traite pas autrui comme un moyen et agis ainsi de manière vertueuse. Et c'est donc cette morale kantienne, on pourrait dire une morale du devoir, de l'impératif, qui nous oblige à, par, selon lui, un impératif de la raison, ce qui est, je dirais, tout à fait critiquable. Et Nietzsche ne manquera pas de critiquer cet impératif catégorique qui, pour lui, n'est qu'une forme de laïcisation de la loi religieuse, finalement. En tout cas, pour Kant, l'essentiel, ce qui doit effectivement être le moteur de l'action humaine, de l'éthique, c'est le respect d'autrui. Et ce respect d'autrui est la loi fondamentale qui doit guider nos actions. Si on peut être heureux, tant mieux, il le dit, c'est un surcroît, c'est quelque chose qui peut advenir. Mais si ce respect d'autrui nous amène, dans certaines situations, à renoncer à un bonheur immédiat, à quelque chose de plaisant, d'épanouissant, il faut le faire parce que cette valeur-là est plus importante que la recherche du bonheur. Donc on voit que un certain nombre de philosophes, et je dirais que la plupart ensuite des philosophes contemporains, postérieurs à Kant, sont assez d'accord avec cette position. Et comme le XXe siècle a été un siècle tragique, le tragique a beaucoup plus marqué la philosophie, et on est dans une situation aujourd'hui où la plupart des philosophes et des intellectuels ne pensent plus au bonheur, ne s'intéressent plus au bonheur. Ça paraît une question finalement dépassée, qui appartenait aux anciens. Et là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la question du bonheur reste tout à fait universelle, que c'est un objet philosophique, contrairement à Kant, que c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir, et c'est un vrai questionnement de savoir si le bonheur peut être ou pas, effectivement, la valeur principale, en tout cas le but de notre action. Nous verrons tout au long de ces différents épisodes sur ces chemins de sagesse que il y a des points de vue assez divergents, et je voudrais tout de suite dire que selon moi il y a deux grandes lignes finalement dans cette quête pour ceux qui croient que le bonheur est la quête essentielle de la vie humaine. Il y a deux grandes lignes. Il y a la ligne de ceux qui recherchent un bonheur sérénité. Ceux qui recherchent le bonheur comme l'absence de trouble, ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie. C'est également la ligne du bouddhisme. On retrouve dans le bouddhisme la recherche fondamentale d'éviter la souffrance. Le Bouddha le dit clairement, tout est souffrance, et le chemin qu'il propose, le noble chemin, est un chemin qui cherche à ne plus souffrir, à vaincre la souffrance, à être dans la paix totale de l'âme. C'est un chemin qui va être celui des stoïciens, je parlais de l'ataraxie, qui est le repos de l'âme. C'est un chemin qu'on va retrouver chez Confucius, c'est un chemin qu'on va retrouver chez Aristote, c'est un chemin qu'on va retrouver chez de nombreux philosophes qui recherchent un bonheur à travers l'absence de troubles. Et c'est celui-là que nous connaissons le plus. Mais il y a un autre chemin, une autre voie qui peut conduire au bonheur, qui peut conduire à une forme de même de béatitude, c'est la recherche non pas de l'absence de troubles, mais de la plus grande joie possible. Et ceux qui recherchent la joie acceptent mieux le trouble, puisque on peut à la fois vivre des grandes joies et en même temps des souffrances qui peuvent être transmutées, qui peuvent être transfigurées par la joie. C'est une voie du consentement à la vie telle qu'elle est, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses joies, avec ses tristesses, et en même temps le but est d'essayer de faire grandir la joie de manière à ce qu'elle prenne le plus de place possible pour nous mettre dans un état de bonheur qui peut même être assimilé, comme le fera Spinoza, à une forme de béatitude, c'est-à-dire de félicité, parce que la joie a réussi à prendre la place dans notre vie sans nier pour autant toutes les dimensions qui existent de fragilité, de faiblesse, d'imperfection, de tristesse, de souffrance et d'épreuve. C'est une sorte de contentement profond, d'acceptation profonde, de consentement profond à la vie, d'acceptation profonde de la vie qu'on va retrouver évidemment chez quelqu'un comme Nietzsche à travers son consentement, son grand oui sacré, son consentement à la vie telle qu'elle est avec toutes ses difficultés, toute sa dimension tragique, c'est ce oui tragique à la vie, mais c'est aussi une voie qui pourrait être la voie du christianisme, c'est aussi une voie spirituelle qu'on peut retrouver également chez les grands mystiques de presque toutes les religions, on va retrouver ça chez certains mystiques soufis, dans un certain nombre de voies de sagesse, c'est une voie qu'on retrouvera dans le taoïsme philosophique, celui notamment de Chuang Tzu, et donc nous allons étudier à travers différentes grandes figures d'Orient et d'Occident, quelles sont ces deux grandes voies qui nous conduisent soit à la sérénité, soit à la joie, et parfois évidemment les deux peuvent être amenés à se confondre.
Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours sur notre site. Dans un instant, le journal de la rédaction de France Culture. Très bon dimanche à tous.